Ce matin, on a un PowerPoint qui est un petit peu ajusté là, à l'écran là, parce qu'on avait un logiciel différent, donc ça ne ressemblait pas tout à fait à ça quand je l'ai fait à la maison, mais je pense qu'on est capable de le lire quand même. Ce matin, je vais vous parler de l'évangélisation relationnelle, c'est-à-dire comment est-ce qu'on invite les gens à s'approcher de Jésus. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à courber vos têtes, à fermer vos yeux pour juste qu'on demande au Seigneur de préparer nos cœurs à recevoir sa parole. Et je vais demander aussi à la personne qui n'a pas fermé son cellulaire, s'il vous plaît, de le fermer. Merci. Donc, éternel mon Dieu, on veut te dire merci ce matin pour le privilège qu'on a de venir et d'entendre ta parole. Je prie, éternel mon Dieu, que tu puisses toucher nos cœurs, que tu puisses vraiment nous aider à reconnaître, Seigneur Dieu, la voix de ton Saint-Esprit qui veut nous parler. Rends-nous, Seigneur, obéissants. Rends-nous facilement malléables, c'est-à-dire facilement transformables par toi, Seigneur. Oui, qu'on puisse être vraiment des disciples de Jésus, c'est-à-dire des apprenants, des élèves de Jésus. Et c'est dans ton nom que nous te prions. Amen. L'évangélisation relationnelle, ce n'est qu'une forme d'évangélisation. Vous le savez, il existe plusieurs manières de partager sa foi. Et ce matin, j'ai choisi de vous parler de l'évangélisation relationnelle parce qu'on s'apprête en fait à se rendre pour le tournoi de soccer. Vous l'avez entendu, on s'apprête à faire des connexions dans le quartier, d'ouvrir une porte relationnelle avec des gens dans le quartier. Et c'est l'approche que j'aimerais qu'on puisse utiliser ensemble. Donc, si vous vous êtes inscrit pour être bénévole, si vous prévoyez venir au tournoi de soccer, ouvrez grand vos oreilles parce qu'il s'agit là d'une petite formation à l'évangélisation. Et même si vous ne serez pas présent, c'est un sujet quand même qui est assez intéressant. Je ne sais pas ce que vous pensez quand vous entendez « évangélisation », mais moi, souvent, l'idée qui me vient en tête ou l'image qui me vient en tête, je vois des tracts, des gens qui font du porte-à-porte, des gens peut-être qui utilisent l'analogie des cinq doigts de la main ou les bracelets avec cinq couleurs. Peut-être vous avez déjà vu ça dans les campagnes d'évangélisation. Mais quelque chose de très direct, pas vrai? On arrive, on prend 10, 15 minutes avec une personne, on lui présente le plan de l'Évangile, on lui demande « est-ce que tu es prêt à faire la prière de repentance? » C'est pas de ça qu'on va parler ce matin. Ça, c'est un autre style d'évangélisation. Ce matin, on va parler de l'évangélisation à travers les relations. Donc, c'est une approche qui vise à créer une relation humaine avec une autre personne. Ça est une approche qui vise à cheminer au rythme de la personne et pas nécessairement à notre rythme à nous. Donc, c'est souvent une approche qui vaut la peine de prendre quand on sait qu'on va être en relation avec les gens sur le long terme, donc avec nos familles, avec nos amis. Et c'est ce qui va créer un cadre sécuritaire pour nous permettre de justement en arriver à partager le plan du salut et inviter les gens à suivre Jésus dans le 1-1. Donc, voyons un peu plus profondément de quoi il s'agit. Est-ce que vous reconnaissez, je ne sais pas si vous voyez bien l'image-là, regardez un petit peu, qu'est-ce que vous remarquez sur cette image-là?
C'est tellement AI generated.
Je m'excuse, je n'entends pas.
C'est tellement AI generated.
Oui, OK, ça là, pour les non-anglophones, là, puis les plus vieux. Généré par l'intelligence artificielle, vous dites. OK, OK, mais qu'est-ce que vous voyez sur cette image-là? C'est qui ça qui est assis là? Ben oui, c'est quelqu'un qui a, si vous remarquez, une robe blanche comme Jésus, la barbe, les cheveux, et même si on regardait d'un peu plus proche, on voit une couronne d'épines sur son front. Alors, pourquoi j'ai choisi cette image-là? Parce que le but de l'évangélisation relationnelle, c'est de faire connaître Jésus à travers les activités quotidiennes de la vie de tous les jours. Donc, à l'époque, quand Jésus s'est présenté aux gens, et il faisait quoi? Il faisait des activités de la vie de tous les jours. Il marche, il voyageait à pied, il a voyagé avec des gens. Il s'est assis sur les plaines pour enseigner, comme le faisaient les rabbins de son temps. Aujourd'hui, si on veut faire connaître Jésus dans la vie de tous les jours, bien, ça se peut que ça ressemble un petit peu à ça, avec nos amis, avec nos proches. Donc, je vais lire pour nous un verset de la parole de Dieu qui va nous aider à comprendre un petit peu ce concept-là. La parole de Dieu nous dira « Conduisons-nous honnêtement comme en plein jour, sans orgie, sans ivrognerie, sans immoralité ni débauche, sans dispute ni jalousie, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et ne vous préoccupez pas de votre nature propre pour satisfaire ses convoitises. Donc, la parole de Dieu nous dit littéralement, revêtez-vous. Hein, cette image-là, c'est comme s'habiller en Jésus. Donc, quand vous vivez votre vie de tous les jours, quand vous êtes en relation avec les autres, ce que les gens devraient voir en vous, bien, ça ressemble un peu à cette image-là. Ils devraient voir Jésus en vous, le caractère de Dieu en vous. Donc, quand les gens vous rencontrent, qu'est-ce qu'ils voient en vous? Est-ce que c'est ça qu'ils voient? Ou est-ce que c'est autre chose? Si on devait comparer votre attitude et vos paroles à celles de Jésus, c'est quoi les conclusions qu'on tirerait? C'est une bonne question à se poser et à méditer, hein? Je vais d'ailleurs l'amener avec moi dans ma retraite de prière. Je pense que ça mérite une bonne réflexion, n'est-ce pas? Oui. Dieu nous appelle à adopter sa patience. Saviez-vous que Dieu est patient? Parfois, lorsqu'on fait l'évangélisation, nous, on n'est pas tant patient, n'est-ce pas? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, j'ai certainement été dans des contextes. Je ne vous parle pas des gens de l'Église ici, là. Donc, si vous vous reconnaissez, je ne parle pas de vous, là. Mais si le chapeau vous fait, vous pouvez le mettre, comme on dit en bon québécois. J'ai déjà entendu des gens qui disent « Hey, cette personne-là, elle n'est pas intéressée par Dieu. » Ben oui, j'y ai parlé, là, j'ai annoncé le plan de salut, j'ai dit « Veux-tu faire la prière de repentance? » Et m'a dit non. Oui, OK, mais des fois, on chemine à notre rythme, n'est-ce pas? Et on prend pour acquis « Hey, la personne m'a dit non, donc elle veut rien savoir de Dieu. » Est-ce que ça se peut aussi que la personne n'est pas prête encore? Est-ce que ça se peut que la personne, elle n'ait pas compris encore tout ce qu'elle a besoin de comprendre? Est-ce que c'est possible que Dieu a encore besoin de travailler dans son cœur? Êtes-vous patient comme Dieu l'est envers nous? Voyons ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à sa patience. Elle nous dira, qu'on aille à la parole de Dieu, je vais vous partager plutôt une citation d'une femme, d'une religieuse du Moyen Âge que j'ai beaucoup appréciée. C'est quelqu'un dont les poèmes, les écrits parlent beaucoup à mon cœur. Elle s'appelle Thérèse de Lisieux. Peut-être vous la connaîtrez sous le nom de Thérèse de l'Enfant Jésus. Et elle écrit ceci dans un de ses poèmes. Aider à chaque instant parce qu'il est le premier, c'est-à-dire que parce que Dieu est le premier. Aimer à chaque instant, le ciel n'est pas pressé. Le ciel n'est pas pressé. Dieu n'est pas pressé. Moi, oui, mais Dieu, non. La parole de Dieu nous dira, « Il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. » Dieu fait preuve de patience envers tous les gens qui ne le suivent pas encore. S'il respire encore, il y a encore de l'espoir. Vous, vous êtes peut-être découragés, Dieu ne l'est pas. Vous, vous vous sentez peut-être à bout de ressources, Dieu ne l'est pas. Adoptons ensemble la patience de Dieu. Et Paul nous dira ceci. Il m'a été fait grâce afin que Jésus-Christ montre en moi le premier toute sa patience et que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Dieu a montré en l'apôtre Paul toute sa patience. Il l'a laissé faire toutes sortes de bêtises, n'est-ce pas? Vous vous souvenez un peu là, de l'histoire de l'apôtre Paul? Paul qui persécutait les chrétiens. Paul qui était tellement religieusement convaincu qu'il avait raison. Et il avait tort. Dieu a montré en lui sa patience. Wow! Dieu nous aime à ce point-là. Dieu veut qu'on soit patient comme ça. Donc, inquiétez-vous pas si la porte semble fermée, comme sur cette image-là. Hein. Il n'y a pas juste la porte qui est fermée. En plus, ils ont mis un rideau devant la porte pour pas qu'on la trouve. Des fois, les gens, leur cœur, c'est un peu comme ça, n'est-ce pas? Le cœur est fermé, là, puis là, ils ont mis même une clôture en avant de la porte fermée, là, tellement qu'ils ne veulent pas. Dieu est patient. Soyons patients. Une chose qui nous sera importante pour nous de nous souvenir, c'est que chaque personne est importante. Et en passant, certaines des affirmations que je mets là, elles font partie de notre ADN comme Église. Hein? C'est des choses qui se retrouvent dans la parole de Dieu, mais c'est des choses qui sont aussi inscrites dans nos valeurs comme Église ici à l'Oasis. Et l'une des choses qu'on croit, c'est que chaque personne est importante. Un peu comme cet homme-là hein, qui a son trophée, là, qui est un champion. Un peu comme on dit avec le tournoi soccer, on est tous des champions. Pour le Seigneur, chaque personne est importante. Laissez-moi vous montrer ça dans la parole de Dieu, brièvement. Donc, la parole de Dieu nous dira ceci. « J'encourage donc avant tout à faire des demandes, des prières, des supplications, des prières de reconnaissance. » Pour qui? Quelques-uns des hommes? Quelques personnes? Juste ceux qui sont bons à nos yeux? Non, pour tous les hommes. Tous les hommes et les femmes méritent la prière. Voilà ce qui est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, lui qui désire que juste quelques-uns, là, des gens spéciaux, soient sauvés. Non, que tous les hommes. Donc ici, l'homme qu'on voit, ce n'est pas les hommes, le sexe biologique, là, c'est tous les êtres humains. C'est l'homme avec un grand H. Donc que tous les êtres humains soient sauvés et parviennent à la connaissance, la compréhension de la vérité. Toute personne est importante pour Dieu. Toute personne mérite la prière. Toute personne mérite d'être guidée vers le salut. Et toute personne mérite qu'on lui enseigne la vérité. Ça, c'est l'optique de Dieu. Donc, ça doit être mon optique aussi dans l'évangélisation relationnelle. Donc, même avec les grands tannants de votre famille, là, même avec les dérangeants au travail ou à l'école, tous sont importants au cœur de Dieu. Donc, Dieu juge que tous valent la peine. Amen. On dira aussi que durant l'évangélisation relationnelle, il faut accueillir l'autre comme un égal. Encore une fois, ce n'est pas les gens dans cette église, mais vous avez peut-être déjà rencontré quelqu'un hein, à qui on dirait, quand on lui parle, là, les chrétiens, ils sont au top, là, ils sont cool, c'est les meilleurs, ils comprennent tout, ils ont l'affaire. Et puis en bas là, de l'échelle sociale, dans leur perspective, il y a ceux qui ne sont pas chrétiens, là. Hein, qui sont peut-être moins intelligents, moins à la recherche de Dieu, etc., etc. Et donc, ils voient un peu le monde en hiérarchie. Ce n'est pas la perspective qu'on doit adopter lorsqu'on fait l'évangélisation relationnelle. En fait, ce n'est pas la perspective qu'on doit avoir comme chrétien tout court. Voici ce que je veux vous expliquer à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dira que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu et ils sont tous, dans le fond, gratuitement justifiés ou déclarés justes par sa grâce, par la moyen de la libération qui se trouve en Jésus-Christ. Donc, on est tous égaux dans le péché et dans l'accès à la rédemption. On n'est pas supérieur, on est privilégié. C'est une grosse différence, ça. Le privilège d'avoir reçu Jésus. C'est un petit peu comme dire, ben moi, peut-être, je suis née au Canada. Hein, je suis née avec la citoyenneté canadienne. Je suis née dans un pays qui n'était pas en guerre. Ça ne fait pas de moi une personne qui est meilleure, mais ça fait de moi une personne privilégiée. Pas vrai? Alors, qu'allons-nous faire avec le privilège qu'on a reçu? Qu'allez-vous faire avec la grâce que Dieu vous a donnée de comprendre l'Évangile, de le recevoir? Est-ce que vous allez vous servir de votre privilège pour écraser les autres? Ou est-ce que vous allez vous servir de votre privilège pour aider les autres? Si j'avais eu un héritage de 20 millions de dollars, ce que je n'ai pas reçu en passant, hein, mais si c'était le cas, hein? Ça ne ferait pas de moi une meilleure personne, mais ça ferait de moi une personne qui a le privilège d'aider peut-être financièrement les autres, n'est-ce pas? J'aurais cette liberté-là parce qu'on m'aurait donné en abondance. Eh bien, spirituellement, on a tous hérité de 20 millions de dollars. On a tous l'abondance, la richesse nécessaire pour partager. Que vous soyez tout nouveau dans la foi chrétienne ou que vous ayez des années, que vous auriez oublié de compter le nombre d'années que vous avez dans le Seigneur, on est privilégié et non pas supérieur. Donc, qu'allons-nous faire avec notre privilège? Vous savez, s'il y avait un accident sur la route, il y a ce qu'on appelle ici une loi qui parle de la loi du bon samaritain, l'obligation de porter secours. C'est une loi terrestre, mais je crois que c'est une loi céleste aussi. Quand on voit quelqu'un qui est sur le mauvais chemin, qui est en danger éternel, on a l'obligation de lui porter secours. Et c'est ça qu'on appelle l'évangélisation relationnelle. C'est entrer dans notre devoir spirituel de porter secours à une personne qu'on voit dans le danger ou dans une difficulté. On le fait par amour, sachant que ça pourrait être nous dans cet accident-là, autant que l'autre personne. L'évangélisation relationnelle, dans notre contexte, dans ce contexte de ce qu'on va faire dans le tournoi de soccer, c'est un engagement dans notre quartier. Pour vous, en d'autres contextes, peut-être que le tournoi de soccer, c'est un engagement dans notre famille ou dans notre milieu de travail ou dans notre voisinage, dans notre bloc appartement. C'est un engagement qu'on veut tenir avec fidélité. Et ça fait partie de ce qu'on veut faire à l'Oasis. On ne veut pas juste se réunir le dimanche matin dans une église, mais on veut être engagé dans les lieux où Dieu nous a placés alors qu'on quitte l'église. Paul dira avoir travaillé beaucoup, avoir goûté à la prison, avoir passé près de la mort à plusieurs reprises, avoir reçu des coups, avoir passé des nuits blanches, avoir été en danger, avoir manqué de nourriture, avoir eu froid, et certainement j'en passe. Tout ça pour être engagé envers les non-juifs dont il était issu. Il était prêt à aller plus loin. Sommes-nous prêts, frères et sœurs, à modeler nos vies pour aller plus loin avec le Seigneur, pour démontrer notre engagement? Et vous savez, la majorité d'entre nous, on ne goûtera pas à ces difficultés-là là, quand on va faire de l'évangélisation relationnelle. Là. La majorité d'entre nous, on ne passera pas par la famine. Là. Mais peut-être que jeûner pour eux, c'est peut-être pas une mauvaise idée, n'est-ce pas? Alors, on ne passera peut-être pas des nuits blanches, mais peut-être que parfois, il faudra sacrifier un petit peu de temps dans sa journée pour prendre soin d'eux, pour leur démontrer l'amour de Dieu. J'ai un collègue pasteur avec qui j'ai travaillé brièvement quand j'étais en voyage missionnaire. Je crois que c'était un petit peu avant la pandémie ou un petit peu après la pandémie, il m'a écrit et il m'a partagé une grande joie dans sa vie. Et il faut comprendre que là où j'étais, c'est un contexte très pauvre, en fait. Donc, on manque souvent de manger, on manque de biens essentiels. Moi, quand je suis revenue puis qu'il y a eu la pandémie, j'étais comme habituée. Toutes les gens étaient comme « on doit faire la file ». Puis moi, j'étais comme « ouais, ben ça, c'est la normale, hein? » C'est même plus agréable de faire la file au Québec parce que tu n'as pas le soleil qui te plombe dessus et il ne fait pas 35 degrés. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Et il me partageait sa joie de voir combien de gens avaient accepté l'Évangile. C'est quelque chose qui m'a bien impressionnée, qui m'a bien marquée. Et voici une partie de son témoignage. Il me disait... J'ai senti que le Seigneur m'appelait à amener l'Évangile dans un coin du pays où il n'y a pas encore d'église qui avait été établie. Il dit alors, j'ai demandé à un camion, il a fait du pouce, pour pouvoir embarquer, pour pouvoir être amené là-bas parce qu'il n'y avait pas l'argent pour se payer un billet d'autobus ou pas de voiture pour se rendre. Et il disait, j'ai eu faim, j'ai eu froid, j'avais pas d'argent pour m'acheter des souliers, mais j'avais des pieds. Alors, je suis allée puis j'ai prêché l'Évangile nu-pied. Quel sacrifice sommes-nous prêts à faire, frères et sœurs, pour annoncer l'Évangile, pour partager cette espérance-là qu'on a en Jésus? Beaucoup le font à travers le monde, avec beaucoup moins que ce que nous avons ici. Soyons fidèles. Je vous ramène à Thérèse, à la petite Thérèse. Et je vous montre un peu le reste de son poème. On va relire le début et on va relire la fin. Elle dira « Aider à chaque instant parce qu'il est le premier, aimer à chaque instant, le ciel n'est pas pressé. Et s'il faut un sacrifice avant le temps du ciel pour chaque âme perdue, alors je serai là. S'il faut des cicatrices avant le temps du ciel pour chaque âme rendue, qu'on les prenne sur moi. » Êtes-vous prêt à être un modèle de l'amour sacrificiel de Jésus? Je vous parle de ça parce que l'évangélisation relationnelle, hein, souvent, on le fait avec des gens auprès de qui on s'attache. Si vous partagez l'évangile avec les membres de votre famille, vous êtes attaché à cette personne-là. Et parfois, leur réaction, elle crée des cicatrices dans notre cœur, hein, parce que des fois, leurs réactions, elles sont un peu violentes, elles sont un peu méchantes. Mais êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à démontrer ce genre d'amour-là patient et sacrificiel que Dieu a eu envers nous? Si vous comprenez l'amour de Jésus envers vous, le sacrifice qu'il a fait à la croix, si vous prenez le temps de méditer sur son amour, vous allez trouver la force de continuer dans ce ministère que Dieu vous a donné. Quelques conseils pratiques pour l'évangélisation relationnelle. Vous n'êtes pas des mouettes, c'est-à-dire des goélands. Est-ce qu'il y en a qui connaissent ces oiseaux-là? Ça vous dit quelque chose? Si vous habitez sur le bord de l'eau, moi je viens de Matane, j'habitais à Rimouski aussi, il y a beaucoup de ces oiseaux-là. Et je ne sais pas pourquoi, mais ça, il semblerait qu'on aime bien mettre des McDonald's près de l'eau et près des mouettes. Alors, si vous avez le malheur hein, d'aller au McDonald's et d'échapper une frite à terre, qu'est-ce que vous voyez? C'est les mouettes qui font comme... Et ça arrive en masse. Et là, ça se bagarre pour avoir la seule frite qui est tombée par terre. On s'apprête à aller faire un tournoi de soccer, hein, à prendre des contacts relationnels avec les gens. Soyez pas des mouettes. Garochez-vous pas toutes sur la même personne. Accueillez ceux qui viennent vers vous. Laissez aux gens le temps d'arriver. L'évangélisation relationnelle, ça le dit, c'est une relation. Alors, on ne vise pas le court terme, on vise le long terme. OK? On vise ce que Dieu va faire à long terme dans le cœur de la personne. Donc, on ne se rue pas chez les gens. S'il y a déjà quelqu'un qui parle avec la personne, si ça s'y prête, hein, vous pouvez être la deuxième personne. Idéalement, pas 10 personnes en même temps. Vous pouvez prier. La prière, ça fait partie de l'évangélisation relationnelle. C'est un ministère efficace. On l'a vu dans le verset précédent, hein? Dieu dit « ça vaut la peine de prier pour tous les hommes ». Et ça vient même avant, le salut et l'explication de la parole de Dieu. On ajoute à ça que ce n'est pas une course. Donc, on prend le temps d'apprendre à connaître la personne et de discerner ses besoins. On demande à Dieu de nous montrer comment on peut l'inviter à aller plus loin avec Jésus de manière respectueuse et naturelle. Il y a quelques années, j'ai fait un programme d'évangélisation qui a été très formateur dans ma vie, que j'ai beaucoup aimé. Et on faisait un genre de petit sondage avec les gens. Donc, c'est comme ça qu'ils nous avaient formés. Hein, est-ce que vous croyez en Dieu? Est-ce que vous pensez que vous allez au paradis? Et puis après ça, on leur présentait l'Évangile à peu près en 5 minutes. Mais ce que je me suis vite rendu compte, c'est si on demande à la personne qu'elle croit en Dieu, puis elle nous dit non, puis que là, on commence à lui expliquer comment Dieu a créé le monde, comment Jésus est venu sur la terre, puis blablabla, bien, la personne, elle est restée à « je ne crois pas qu'il y a un Dieu ». Donc, on chemine à notre rythme et on ne chemine pas nécessairement au rythme de la personne. Donc, l'objectif de ce qu'on veut faire hein, quand on va rencontrer les gens, c'est de les inviter à aller plus loin avec Jésus, mais en partant de là où ils sont eux, pas de là où nous sommes nous. Parce que ce n'est pas à propos de nous, en fait. C'est à propos des autres. Donc, des exemples d'invitation à aller plus loin, ça dépend vraiment de la personne. J'en ai mis quelques-uns ici pour nous donner une idée. Donc, ça peut être, par exemple, inviter la personne à l'église si vous sentez que la personne, elle a une ouverture, hein, à aller à l'église. Ça peut être la présenter à un autre chrétien, par exemple, quelqu'un qui est un chrétien qui est son voisin, par exemple. Donc, la personne aura peut-être l'opportunité, par exemple, de développer une relation plus intime avec elle. Ça peut être, par exemple, en posant ou en répondant à une question spirituelle, en proposant de se revoir, en offrant de la prière. Donc, il y a tellement de manières qu'on ne peut pas arriver avec une petite liste puis vous dire, bien, cochez là. L'évangélisation relationnelle, ça se traite d'être à l'écoute de l'autre. Quels sont ses besoins? Comment est-ce que Dieu est à l'œuvre dans sa vie déjà? Quelles sont ses soifs spirituelles? Et comment, moi, je peux l'aider à faire un petit pas de plus vers Jésus? On n'est pas des mouettes, mais on est des espions. Pourquoi elle dit ça, là? Je comprends pas. Est-ce qu'on va, comme, espionner les gens? Non, pas tout à fait. Moi, quand j'étais enfant, mon rêve, pendant que toutes les autres petites filles voulaient être des princesses ou voulaient être des vétérinaires ou des chanteuses, moi, je voulais être une espionne, genre agent 007. Vous pouvez vous imaginer que j'étais plus populaire avec les petits garçons qu'avec les petites filles. Parce que ma préoccupation était de, comme, je vais apprendre à jouer le karaté, à préparer, à mettre des explosifs, etc. Bon. Bref, tranche d'histoire. Quand je suis devenue chrétienne et que j'ai commencé à faire de l'évangélisation, je me suis rendue compte que mon désir avait été un peu, comme, satisfait, parce que je me sentais un peu comme une espion. Pourquoi je vous dis espion? Parce qu'on a une nouvelle identité. Comme un espion, hein, va souvent dans les missions adopter une nouvelle identité. Nous, notre nouvelle identité, c'est Jésus. Alors, il faut s'assurer d'être crédible. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On revient au verset qu'on avait dit avant, hein? On se revêt de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'on prend son caractère. Donc, je vais devoir travailler, pas juste dans les moments d'évangélisation. C'est pas comme je suis dans l'évangélisation relationnelle et tout d'un coup, je suis une personne différente. Non. Tous les jours de ma vie, j'apprends à me revêtir de la personne de Jésus pour que lorsque je suis dans les moments d'évangélisation, hein, les gens voient ce qui est naturellement en moi. L'identité dont je me suis revêtue, c'est celle de Jésus. Donc ça, c'est un travail qui se fait à tous les jours. On est des espions parce qu'on fait équipe avec le Saint-Esprit en secret. Donc, on utilise la prière d'intercession. Et c'est magique, hein? Le Saint-Esprit est un petit peu comme le petit gadget. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des films d'espions. Ils ont comme des petits trucs dans leurs oreilles. Et là, il y a quelqu'un d'autre qui leur dit « Ah, tourne à droite ici parce qu'il voit le plan du bâtiment. » Ou lui disent « Ah, réponds telle chose à la personne. » Donc, ils lui donnent des directives. Et nous, comme chrétiens, on utilise le gadget du Saint-Esprit aussi. Qui va nous diriger, qui va nous montrer, ah, tu vois, ce verset-là, il va rappeler à notre esprit, par exemple, ce verset-là de la parole de Dieu qu'on va pouvoir expliquer à la personne. Il va pouvoir nous donner de la sagesse au bon moment pour pouvoir agir selon sa volonté. Et c'est ce que la parole de Dieu nous promet, d'ailleurs. Elle dit ceci dans la parole de Dieu, nous dit, « Ne vous inquiétez ni du contenu, ni de la forme de ce que vous direz, car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera le Saint-Esprit de votre Père qui parlera dans votre bouche. » Et c'est là que j'ajouterais, ben en fait, un peu comme dans votre oreille spirituelle, et ensuite ça sort dans votre bouche. C'est quand même cool, non? Je ne suis pas là tout seul. Quand je m'engage dans l'évangélisation relationnelle, Dieu est avec moi. Mais je vais vous dire quelque chose. Si vous n'êtes pas habitué d'entendre le Saint-Esprit pour vous-même, si vous ne prenez pas le temps de cultiver votre relation avec Dieu, ben ça va être dur de l'entendre dans les moments d'évangélisation relationnelle, n'est-ce pas? Encore là, c'est quelque chose, c'est un gadget qu'on apprend à utiliser en dehors de nos moments d'évangélisation relationnelle. Alors, préparons-nous, frères et sœurs, un peu comme cet homme-là, qui a une main par terre, est en position pour démarrer une course, préparons-nous à partager l'Évangile avec ceux qui nous entourent. Et je vais vous dire un secret, ce n'est pas juste dans un tournoi de soccer qu'on fait de l'évangélisation relationnelle. On en fait très souvent, de toutes sortes de manières, sans même s'en rendre compte. Peut-être vous allez voir toujours au même dépanneur le même commis. Vous le saluez, vous commencez à bâtir une relation avec lui. Peut-être c'est votre esthéticienne, votre médecin, les gens qui font partie de votre vie tous les jours. C'est pour ça qu'on apprend à entendre le Saint-Esprit à tous les jours. C'est pour ça qu'on se revêt du caractère de Christ à tous les jours. Donc, on arrive reposé idéalement, hein, avec des vêtements appropriés puis en ayant mangé. Pourquoi je dis ça? Ça, je parle spécifiquement du tournoi de soccer. Idéalement, si vous prévoyez venir, pourquoi on fait ça? On vient répondre à nos besoins de base. Un peu comme dans la vie de tous les jours, hein, on prend notre temps avec le Seigneur, on le laisse guérir notre âme, on le laisse nous parler, pour que lorsqu'on arrive dans des moments d'évangélisation relationnelle, ce ne soit pas à propos de nous. Donc, on n'est pas là pour répondre à nos besoins, on est là pour écouter le Saint-Esprit et répondre aux besoins de l'autre. Donc, l'évangélisation relationnelle se veut focusser sur les besoins de l'autre. Maintenant, ça ne veut pas dire que comme chrétien, on arrête de prendre soin de nous, n'est-ce pas? On a besoin de ces temps-là. Même Jésus, il allait à l'écart avec son Père pour la prière, pour être un moment d'intimité, pour être rempli. Eh bien, c'est la même chose qu'on a besoin de faire comme chrétien. On fait don de soi, c'est vrai, mais on a aussi un espace où on prend soin de soi. Pour que lorsqu'on arrive dans nos moments d'évangélisation relationnelle, idéalement, on arrive avec un cœur qui est comblé. Et avec même un corps aussi qui est reposé. Donc, ça fait partie des choses qui sont importantes dans notre vie chrétienne. On ne veut pas tomber dans un extrême ou dans l'autre. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux ensemble. Pour se préparer aussi, on peut réfléchir à l'attitude qu'on devrait adopter. Il y a des contextes d'évangélisation relationnelle où on connaît les gens, n'est-ce pas? On a une petite idée de qui on a affaire, surtout si ce n'est pas la première fois qu'on parle avec cette personne-là. Comment je vais réagir si la personne se met en colère? Comment est-ce que Jésus réagirait à ça? Et là, ben, vous pouvez mettre d'autres exemples selon les gens, hein, qui vous entourent. Ça n'était qu'un exemple. On peut prier à l'avance aussi. Hein? Le matin, la veille, par exemple, c'est des bons moments pour se préparer, pour être bien disposé dans notre cœur à ces moments-là d'évangélisation. Si vous venez au tournoi de soccer, je vous invite. On sait, on prie depuis quelques semaines. On sait, on aura une réunion spéciale de prière à ce sujet-là. Mais vous, là, vous-même, avec le Seigneur, là, la veille ou le matin même, là, arrêtez-vous. Prenez un temps, demandez, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire avant que j'entre dans ce moment-là d'évangélisation? Et c'est une habitude que vous pouvez prendre dans l'ensemble de vos moments d'évangélisation relationnelle. Par exemple, hein, tous les jours vous allez au travail, bien peut-être tous les jours dans votre moment de dévotion personnelle, vous pouvez demander au Seigneur, Seigneur, montre-moi comment je peux être un témoin de toi aujourd'hui au travail. Rends-moi attentif hein, alors que je suis préoccupée par toutes les tâches que j'ai à accomplir. Rends-moi attentif à ton Saint-Esprit. Vous pouvez aussi anticiper des questions, commencer à réfléchir sur des choses que je sais pas mal que la personne a risque de me poser cette question-là. Alors, posez la question au Seigneur. Prenez votre Bible, commencez à étudier, à chercher. On va aller au tournoi de soccer et peut-être vous allez rencontrer des questions comme celle-ci. Pourquoi est-ce qu'une église organise un tournoi de soccer? Vous êtes-vous posé cette question-là? Ça se peut qu'on se la fasse poser, cette question-là. Qu'est-ce que vous allez répondre si on vous pose cette question-là? C'est quoi l'oasis? Quelle réponse vous donneriez à ça? C'est une église? OK, mais encore? Ça veut dire quoi être une église? Qu'est-ce qui rend votre église différente d'une autre église? C'est-tu la même chose là, que les catholiques ou les témoins de Jéhovah, là? Qu'est-ce que vous allez répondre à toutes ces questions-là? Je vous invite, si vous n'êtes pas déjà engagé, vous êtes les bienvenus au tournoi de soccer. Et si vous n'êtes même pas prêt à parler, peut-être soyez là pour prier. Soyez là pour observer, voir comment d'autres s'y prennent. Joignez-vous à nous, non seulement pour le tournoi de soccer, mais joignez-vous à nous pour faire connaître le Seigneur dans les endroits où il vous a placé, dans les endroits où vous avez l'opportunité de développer des relations. Dieu vous a placé là où vous êtes. Et chaque personne a une opportunité. Chaque personne a une opportunité. Frères et sœurs, prions et repartons avec un cœur bien disposé pour être des témoins efficaces là où il nous a placés. Éternel, on te dit merci. Merci parce que tu nous as choisis. Tu nous as donné un immense privilège, celui de te connaître. Seigneur, il y a beaucoup de choses par rapport à nos vies qu'on n'a pas choisies. Et lorsqu'on même on pense à notre propre salut, on peut qu'être émerveillé et dire, Seigneur, tu nous as fait grâce. Vraiment de comprendre et d'accepter ton évangile. Viens, éternel mon Dieu, nous fortifier afin qu'on puisse adopter ton cœur. Tu nous dis que tous les hommes sont dignes de prière, que tous les hommes, tu souhaites qu'ils soient sauvés, qu'ils parviennent à connaître la vérité. Et Seigneur, c'est nous que tu appelles pour que nous soyons tes outils, pour que nous partagions l'Évangile. Rends-nous attentifs, Seigneur. Rends-nous bien disposés, patients, Seigneur, parce que toi-même, tu n'es pas pressé. Ou comme le dirait la petite Thérèse, le ciel n'est pas pressé. Seigneur, donne-nous aussi des cœurs qui sont humblement prêts à partager tes souffrances. Nous savons, Seigneur Dieu, que tu souffres de voir un monde qui s'éloigne de toi. Nous savons, Seigneur, que parfois, lorsqu'on choisit de s'engager dans l'évangélisation, nous-mêmes, on souffre parce qu'on connecte avec ton cœur pour des gens qui ne te connaissent pas, qui parfois même nous attaquent. Seigneur, donne-nous de pardonner facilement, d'aimer abondamment. Et donne-nous, Seigneur Dieu, d'être tes espions qui sont à l'écoute de ton Saint-Esprit, qui se revêtent de Christ, de son caractère, et qui puissent accomplir à bien la mission que tu nous as confiée. Et c'est en ton nom puissant, Jésus, que nous prions. Amen.